bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Donald Trump inflige de nouvelles sanctions aux dirigeants iraniens. Il vise notamment l'ayatollah Khamenei de façon plus symbolique qu'économique, vous le comprendrez. Dans ce journal, nous évoquerons aussi le climat à l'aube de l'examen du projet de loi énergie-climat à l'Assemblée nationale. Neutralité carbone, baisse du nucléaire, quelles mesures sont saluées, lesquelles sont décriées, nous verrons cela. Et puis, vous entendrez Agnès Thil, députée La République En Marche, qui pourrait être exclue du parti présidentiel aujourd'hui. Ses provocations notamment sur la PMA pour toutes, dérange au sein de la majorité. Trois jours après avoir failli lancer des frappes militaires sur l'Iran, Donald Trump a donc annoncé hier de nouvelles sanctions à l'encontre de Téhéran. Des sanctions financières qui visent surtout la tête du régime. La Maison-Blanche dit vouloir accentuer un peu plus la pression sur l'Iran pour l'empêcher de poursuivre ses activités nucléaires, même si ce volet de sanctions sera plus symbolique que les précédents, Grégory Phillips.
Les précédentes sanctions américaines décidées en avril visaient à couper la manne du pétrole au gouvernement iranien. Cette fois, la Maison-Blanche veut atteindre les plus hauts dignitaires de la République islamique, à commencer par le guide suprême Khamenei. Le guide et ses proches ne pourront plus faire la moindre transaction avec des banques internationales ou des institutions financières. Même chose pour 8 hauts gradés du corps des gardiens de la Révolution que Washington accuse d'être à l'origine de la destruction du drone américain la semaine passée. Mais en vérité, ces dignitaires iraniens ont très peu d'actifs à l'étranger. Le département du Trésor dit que dans les jours qui viennent, le ministre des Affaires étrangères, Zarif, sera lui aussi touché par ces sanctions. Lui, le modéré, est sans doute le plus à même un jour d'entamer un dialogue avec les Américains. Bref, ces sanctions n'auront qu'un effet limité, mais elles permettent à Donald Trump de montrer qu'il ne reste pas inactif après la perte du drone américain en mer d'Oman et après avoir, dit-il, renoncé au dernier moment à mener des frappes contre l'Iran.
Donald Trump qui coupe les mannes financières de l'Iran et qui souhaite en apporter au Proche-Orient. La première phase du plan de paix établi par Washington sera lancée aujourd'hui lors d'une présentation prévue à Bahreïn. Phase économique qui vise un investissement de 50 milliards de dollars sur 10 ans pour les Palestiniens. La Palestine qui dénonce la primauté de l'aspect économique sur la politique, ses représentants seront donc absent du sommet. La Russie est autorisée à revenir à l'Assemblée du Conseil de l'Europe après 5 ans d'absence. Moscou avait été sanctionnée après l'annexion de la Crimée en 2014 et pourra donc ce mardi présenter une délégation au sein de l'instance. Les parlementaires du Conseil de l'Europe ont voté hier en ce sens aux grandes dames des pays de l'Est et notamment de l'Ukraine. Les réactions sont contrastées après l'annonce hier du report du brevet des collèges à cause de fortes chaleurs en France. La FCPE préconisait plutôt de prendre davantage en compte le contrôle continu. Quand les professeurs saluent cette décision du ministère de l'Éducation nationale, le brevet des collèges se déroulera donc non pas jeudi et vendredi, mais lundi et mardi prochain pour 700 000 élèves en France métropolitaine. Car les températures sur les trois quarts de la France grimpent encore, nous ferons une météo complète à la fin de ce journal. Ce dérèglement climatique résonne d'ailleurs ce mardi avec la présentation à l'Assemblée nationale de la loi sur l'énergie et le climat. Les débats commenceront cet après-midi. Le texte vise notamment à réduire la part du nucléaire dans la production électrique française de 70% aujourd'hui à 50% en 2035. Il s'agira aussi d'amener la France à la neutralité carbone en 2050. Invitée du journal de 22h hier soir sur France Culture, Anne Bringot, responsable transition énergétique au sein du réseau Action Climat. Ces objectifs de la loi climat et énergie sont aujourd'hui nécessaires, voilà ce qu'elle disait.
La neutralité carbone, c'est finalement émettre moins de gaz à effet de serre et pouvoir les absorber complètement par les phénomènes naturels de photosynthèse ou autres. Donc c'est vraiment l'objectif indispensable pour rester sous 1,5 degré de réchauffement du climat. Et c'est vrai que 2050, c'est un peu tardif, ça aurait pu être plus tôt, mais en tout cas, on va sur un cap intéressant. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait dès maintenant pour se mettre sur ce cap ? Sur ce projet de loi sur l'énergie et le climat, je pense qu'il faut se focaliser sur la question du bâtiment. Le bâtiment, c'est un secteur où on émet à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, c'est le secteur où on consomme le plus d'énergie. Et par ailleurs, c'est un secteur où on a aussi des passoires énergétiques, donc ces logements avec une étiquette énergie F ou G, où on a finalement des habitants qui ont des factures énergie qui explosent ou qui peuvent simplement se chauffer l'hiver parce que les factures sont trop chères, et l'été qui souffre encore plus de la chaleur en cas de canicule. Donc maintenant, il faut engager la rénovation de ces passoires énergétiques. C'est un enjeu écologique et c'est un enjeu social très fort.
Et notez qu'il existe en France plus de 7 millions de logements mal isolés. Anne Bringaud du réseau Action Climat était interrogée par Stanislas Vazak. Alors nous évoquions la réduction de gaz à effet de serre. Cela passe, selon l'exécutif en France, par la réduction des voitures diesel. Mais cette transition est un coup d'arrêt pour des entreprises du secteur automobile. Une catastrophe même pour certains sous-traitants. Ainsi en France, la fonderie du Poitou, 400 emplois, a été placée en redressement judiciaire. Ibidem ferme son site de filtre à particules dans le Loiret, 300 emplois. Ce matin, ce sont les syndicats et responsables de l'usine Bosch à Rodez qui s'inquiètent. Ils seront reçus à Bercy pour défendre l'idée de vignette critère 1 disponible pour les voitures diesel. Faustine Calmel.
Sans vignette critère 1, il n'y aura pas de salut pour le diesel, disent-ils. La preuve, certaines villes veulent bannir ces véhicules de leur route dès 2024 pour Paris. Et c'est ce qui explique en partie la chute des ventes, estime Yannick Anglarès, délégué CGT chez Bosch Rodez.
La baisse du diesel, on le sait très bien, ça vient du dieselgate de Volkswagen à l'origine. Mais le fait que les professionnels aient des craintes quant à l'utilisation des véhicules de diesel dans les grandes villes avec le problème de la vignette ne fait qu'empirer les choses.
Le diesel représentait 55% des immatriculations il y a 3 ans. C'est à peine un peu plus d'un tiers aujourd'hui, avec des conséquences pour l'emploi. Entre 10 000 et 15 000 postes menacés à court terme, calcule l'Observatoire de la métallurgie, et les 1 500 de Bosch Rodez sur la sellette, craint Yannick Anglarès.
Si on n'a pas ce classement-là, c'est la fin de l'industrie diesel en France. Il continuera à avoir des voitures diesel qui rouleront en France, mais plus rien ne sera fabriqué en France, car les équipementiers tels que Bosch se désengageront de la France si le marché du diesel recule encore, voire s'écroule.
Pour appuyer leur demande de classement critère 1, les syndicats de Bosch réclament une étude scientifique au gouvernement qui comparerait les émissions des moteurs essence et des diesels nouvelle génération, pas plus polluants, assure-t-il. Annoncée en mars dernier, cette étude n'a toujours pas été lancée.
L'IGPN, la police des polices, a été saisie hier après une opération controversée lors de la fête de la musique à Nantes. 14 personnes sont tombées dans la Loire dans la nuit de vendredi à samedi. Un homme est toujours porté disparu. Agnès Thil sera-t-elle exclue de La République En Marche ? La députée de l'Oise est une énième fois convoquée aujourd'hui devant la commission des conflits du parti présidentiel. Après plusieurs avertissements, la sanction cette fois pourrait tomber. Cela fait suite aux nombreuses provocations de l'ancienne directrice d'école. Elle commence à poser un sérieux problème au sein de la majorité, Rosalie Lafarge.
Les provocations à répétition d'Agnès Thil avaient déjà bien du mal à passer auprès de ses collègues. Mais alors que le texte sur la PMA doit être présenté en Conseil des ministres le mois prochain et soumis au Parlement fin septembre, le prétendu lobby LGBT du Palais Bourbon, les femmes seules ayant recours à la PMA comparées à des drogués ou l'éclosion d'écoles coraniques à cause de l'absence de genre dans le mot « parent », ça ne passe plus du tout. Par ses propos, explique le patron des marcheurs, Stanislas Guérini, Agnès Thil ne permet pas un débat apaisé sur la PMA.
C'est pas moi qui ne favorise pas l'apaisement.
L'ancienne militante du PS revendique d'être une voix dissonante de la majorité.
Cette loi passera. Mes collègues sont 300. Toutes les lois passent. Mais je me bats même pas pour ça. Je veux pouvoir dire ce que beaucoup de Français pensent et je dois pouvoir le dire. On ne peut pas donner une liberté de vote et interdire d'en exposer les raisons.
Et ces raisons, Agnès Thil ne se prive pas de les exposer dans la presse ou sur les réseaux sociaux. Chacun de tes tweets t'éloigne de ce que nous sommes, lui a d'ailleurs déjà répondu le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Mais ce sont surtout ses collègues députés qui dénoncent ces dérapages incontrôlés.
Mais il n'y a pas de dérapage. Ils disent elle a récidivé, elle a dérapé. Non, je parle du sujet. Mais je fais 10 fois attention. Je relis tout ce que j'écris. Simplement, je ne peux rien dire sur ce sujet. Ah, on veut bien que j'ai mes propres opinions, mais il faut que je me taise.
Certains menacent de quitter LREM si Agnès Thil n'en est pas exclue tout à l'heure. Tout en reconnaissant des maladresses, la députée dénonce un chantage abject, d'autant plus décevant qu'il vient des siens, d'un parti qui prône, dit-elle, la tolérance, la bienveillance et le respect de la parole de l'autre.
Chose promise, chose due, voici la météo de ce mardi. Si le temps sera encore instable sur le nord-ouest, il restera sec et très chaud ailleurs. De la Dordogne jusqu'au Bas-Rhin, en passant par l'Île-de-France et la Drôme. Il fait déjà ce matin 25 degrés à Périgueux, 27 à Paris, 28 à Besançon, 30 degrés ce matin à Lyon et 32 à Marseille. Il fera jusqu'à 38 degrés cet après-midi, 40 demain et après-demain. En revanche, ce matin, il faut compter 18 degrés à Brest et 23 à Bayonne sous un grand soleil.